Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Grenouille à tous les amateurs de danse contemporaine. Éteignez vos portables, c'est maintenant. Aujourd'hui donc, place à la danse, puisque tout au long du mois de mai et bien au-delà jusqu'à début juillet, Marseille se fait le théâtre d'un parcours assez exceptionnel, exclusivement dédié à la danse contemporaine. Pendant 2 mois, les amateurs seront comblés, mais ce peut être aussi l'occasion pour tous de découvrir cet univers réputé élitiste. Durant plus de 2 mois, 5 structures, cheminant côte à côte depuis des années, ont décidé de s'associer dans une aventure collective baptisée « Flux de Marseille ». Un pass à 45 euros permettra d'assister à 5 spectacles et ou aux manifestations de son choix. Flux réunit le Ballet National de Marseille, Marseille Objectif Danse, mais aussi le Festival de Marseille, le Festival International du Documentaire et le Festival Mimi. Vous trouverez toutes les infos et les lieux participants, dont la friche de la Belle de Mai, la salle Vallier, le grand studio du BNM, le musée d'art contemporain, les îles du Frioul, les théâtres et cinémas, sur le site www.fluxdemarseille.com. Pour évoquer cet événement bien sûr, mais surtout pour parler de danse contemporaine, j'aurai le plaisir d'accueillir Frédéric Flamand, directeur général du Ballet National et de l'École Nationale Supérieure de Danse de Marseille. En compagnie du chorégraphe, nous allons d'abord nous arrêter sur Métamorphose, son spectacle qu'il présente le 18 mai au Théâtre des Salins à Martigues, puis sur sa dernière création, La Vérité 25 images par seconde, qui sera dansée à la Salle Vallier à Marseille du 8 au 12 juin, après l'avoir présentée pour la première fois à Luxembourg et au Théâtre National de Chaillot à Paris le mois dernier. Pour les Métamorphoses, qui s'appuient sur l'œuvre éponyme d'Ovid, Frédéric Flamand a fait appel aux designers brésiliens Humberto et Fernando Campana pour la conception des décors et costumes. L'un des intérêts de cette pièce repose sur le détournement et sur l'utilisation de produits artisanaux ou de recyclage, mais aussi sur la transgression des canons de l'esthétique. Les Métamorphoses intègrent des savoir-faire populaires extraits de différentes cultures locales, puisant dans des narrations inspirantes de leur pays. S'immerger dans l'imaginaire fantastique d'Ovide à travers des temps et des espaces différents, pour mieux analyser en quoi ces métamorphoses peuvent renvoyer à nos mythes contemporains. En d'autres termes, on évoque un ailleurs ancien pour mieux interroger notre présent. Quant à la dernière création, La Vérité 25 images par seconde, le chorégraphe Frédéric Flamand définit son travail comme, je cite, « une réflexion sur les mutations de la perception, sur l'ambiguïté du rapport vérité-mensonge, ainsi que sur le statut du corps en proie aux évolutions technologiques ». Dans ce spectacle, le balayage électronique de 3 caméras de vidéosurveillance crée un nouvel environnement de contrôle en temps réel de 25 images par seconde. Cette vision sans regard se confronte à une autre approche de la vérité, celle du corps fragile et de sa présence réelle. Pour cette œuvre, Frédéric Flamand a choisi l'architecte plasticien chinois Ai Weiwei pour la création de la scénographie qui s'est lui-même inspiré très librement d'une œuvre majeure de Calvino, le Baron Perché. Il en résulte une sorte de circuit intégré où les danseurs sont reliés par des capteurs pour le son et à des caméras pour l'image. Un contrôle continuel des corps et des espaces crée un environnement inattendu. La perspective se dilate. Les corps se retrouvent dans un jeu de cache-cache avec leur propre image. Virtuel et réel s'étreignent tandis que la télésurveillance gère différentes temporalités. Selon le chorégraphe, La Vérité 25 images par seconde est l'histoire d'une émancipation qui relance des interrogations de toujours sur le statut du corps et invite les danseurs à s'accaparer à leur manière et à partir de leur mémoire, le parcours démesuré du héros perché dans les arbres. Alors bonjour Frédéric Flamand et merci d'être avec nous sur Radio Grenouille pour nous présenter l'actualité du ballet, vos prochains spectacles, mais aussi nous donner quelques précisions sur les ambitions de Flux de Marseille dont je parlais en introduction de cette émission. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes le directeur général du Ballet National et de l'École Nationale Supérieure de Danse de Marseille depuis 2004, je crois.
Oui, fin 2004.
Alors, Frédéric Flamand, comment êtes-vous arrivé à la chorégraphie et quel a été le déclic pour vous lancer dans cette aventure ?
Écoutez, c'est une aventure qui remonte il y a très longtemps en Belgique, donc je viens de Belgique, comme vous le savez. J'ai fondé avec mon frère le premier groupe expérimental en Belgique, c'était dans les années 70, vous imaginez. À ce moment-là, Bruxelles était une ville très très calme, on faisait un spectacle, on le jouait 2-3 semaines, et puis il fallait s'expatrier, parce qu'il n'y avait pas assez de public pour ce type de spectacle à l'époque. Et c'est un petit peu comme ça, forcé, que nous sommes partis aux États-Unis, on est partis 6 mois aux États-Unis. On a découvert New York, toute l'avant-garde new-yorkaise, San Francisco, les universités américaines. Bon, et forcément, ça m'a appris énormément de choses. J'ai rencontré énormément d'artistes avec lesquels je suis resté en relation, d'ailleurs, et que j'ai invités par après en Belgique ou dans des festivals comme à Venise, par exemple, puisque j'ai organisé le premier festival de danse contemporaine à Venise en 2003. Et donc, voilà, donc un début très marginal, nous étions 4 acteurs, danseurs.
Vous n'étiez pas, vous n'avez pas une formation de danseur.
J'ai une formation grotowskienne, c'est-à-dire c'est une formation très très physique, c'est un entraînement qui nous venait de Pologne, qui avait diverses sources. Mais en même temps, nous avons travaillé avec des danseurs très très vite. Et donc j'ai suivi des cours de danse forcément en même temps que l'entraînement de Grotowski il y a donc plus de 30 ans. Quoi.
Et depuis cette époque, comment avez-vous vu évoluer la danse contemporaine ?
Mais il y a eu une très grande évolution. Hein. Je crois que les États-Unis ont amené énormément de choses. Bon, je viens d'inviter par exemple Lucinda Child au Ballet de Marseille. Bon, ben, c'est quelqu'un qui a révolutionné la danse contemporaine. La Judson Church à New York, où justement des chorégraphes et des artistes d'autres disciplines collaboraient ensemble, ce qui était un des grands exemples. Il y avait là des grands architectes, il y avait des musiciens qui essayaient d'élaborer une nouvelle forme de spectacle et qui ont effectivement influencé très très fortement jusqu'aujourd'hui l'Europe. Ceci dit, il y a aussi de nouvelles énergies en Europe. Ce sont des vagues. Hein. Je crois que l'énergie est peut-être plus forte en Europe qu'aux États-Unis pour le moment. Et donc c'est intéressant d'observer tout cela. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on peut dire que la danse contemporaine a triomphé quelque part, puisque si vous analysez bien, la plupart des festivals de danse sont contemporains aujourd'hui. Mais en même temps, et ça c'est le grand apport du Ballet de Marseille, je crois que je travaille très fort sur un dialogue entre la danse contemporaine et la danse classique. C'est-à-dire réinterroger la technique. Je crois qu'à partir de la technique classique, on peut également parler du monde d'aujourd'hui.
Vous avez toujours travaillé comme ça ?
Non, j'ai travaillé comme ça à partir d'un moment en Belgique quand j'ai été nommé directeur après le petit groupe dont je vous ai parlé. J'ai été nommé directeur de ce qu'on appelait le Ballet Royal de Wallonie, c'est un nom un peu ronflant, et dont nous avons d'ailleurs changé le titre. J'ai proposé que ça s'appelle Charleroi Danse, parce que ces spectacles se créaient, le ballet travaillait à Charleroi, donc je voulais rendre hommage aussi à la ville. Et surtout montrer aussi qu'il s'agissait d'une autre optique. Et donc ça s'appelait Charleroi Danse. C'était une compagnie de 30 danseurs également. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai été assez fasciné par la technique classique et que je me suis dit qu'on pouvait faire entrer en dialogue ces deux disciplines, enfin ces deux techniques, je veux dire, et également avec d'autres disciplines d'ailleurs, l'architecture, des artistes visuels, des plasticiens, des artistes vidéo. Donc c'est tout un travail qui a commencé en fait à Charleroi, et nous avions réalisé des biennales de la danse avec des thématiques, gender, corps et machine, corps et image, avec l'invitation d'énormément de chorégraphes qui venaient du monde entier. Donc ça a été un moment très important, cela, une petite révolution en tout cas en Belgique.
parler de votre arrivée à Marseille, qui remonte, je crois, à 5 ans. Hein.
Oui, 5 ans maintenant.
À la succession donc de Marie-Claude Pietragala. Comment êtes-vous parvenu à relever ce défi, puisque le ballet à ce moment-là était quand même dans une situation délicate?
Oui, ben, c'est-à-dire il était surtout dans une situation délicate, en ce sens qu'il n'y avait plus de répertoire. Et donc il a fallu, il fallait être une espèce de maçon, rebâtir, repartir à zéro avec beaucoup d'enthousiasme, parce que justement comme j'aime beaucoup la technique et qu'il y avait de très beaux danseurs au Ballet de Marseille, hein, qui avaient peut-être été blessés par des expériences douloureuses. Et donc toute la thématique, en fait tout le concept du Ballet de Marseille a été mémoire et innovation.
Mais comment se constitue un répertoire ?
Mais le répertoire est constitué d'abord par mon propre travail que j'ai proposé et aussi par l'invitation d'autres chorégraphes. Et donc, ce qui était important pour moi, c'est avoir une espèce de projet de corps, si vous voulez. Mais un corps multiple qui parlerait plusieurs langues chorégraphiques et qui correspond un petit peu au corps de l'homme contemporain. Aujourd'hui, on peut parler d'un corps multiple, le corps réel, mais aussi le corps image, le corps virtuel, les différents types de corps qui nous traversent dans la société contemporaine.
Et est-ce que le fait de partir de zéro, comme vous l'expliquiez, a été un handicap ou plutôt une chance ?
Ben les deux en même temps. C'est à la fois un handicap parce que c'est un travail énorme. Il faut donner confiance aux danseurs. Bon, j'ai amené quelques danseurs avec qui j'avais travaillé aussi en Belgique, hein, qui sont toujours là d'ailleurs. Un jeune danseur japonais à l'époque qui avait travaillé avec Teshigawara et qui est toujours au Ballet de Marseille maintenant. Ainsi que quelques autres danseurs, et puis faire une rencontre aussi avec les danseurs du Ballet de Marseille, ce qui n'était pas évident, leur donner confiance, parce que j'aime beaucoup travailler aussi à partir d'improvisation, c'est-à-dire que pour moi les danseurs ne sont pas uniquement des interprètes, mais sont aussi des créateurs. Je crois que c'est très important que ça vienne d'eux aussi, des recherches de mouvement. Donc je propose une espèce de partition, je crée des micro-unités, si vous voulez, mais je pars d'eux-mêmes, de leur mouvement, de leur personnalité, ce qui rend les spectacles parfois très, très vifs, mais aussi des spectacles qui peuvent se retravailler continuellement, qui évoluent continuellement, qui sont vraiment des spectacles vivants, en fait.
Vous donnez d'ailleurs souvent des cartes blanches à vos danseurs.
Oui.
Combien de danseurs avez-vous au ballet de...
Nous avons une trentaine de danseurs, entre 30 et 35, mais en fait, bon, vous savez, comme dans toute grande compagnie, généralement, il y a toujours quelques danseurs bon, qui ne dansent pas ou qui ne dansent plus ou qui momentanément ne dansent pas. Donc, il y a une trentaine de danseurs. Effectivement, nous donnons des cartes blanches. Je crois que c'est très important parce que ça fait fructifier leur technique, ça développe leur créativité. J'ai fait ouvrir le bâtiment qui était fermé au public. Vous savez que nous avons un immense studio qui est un des plus beaux studios en France pour la création chorégraphique. La ville de Marseille nous a installé un gradin public de 300 places rétractables, ce qui fait qu'on transforme ce studio en salle de spectacle. Et ce sont des soirées assez merveilleuses parce que le public vient.
Régulièrement ?
Mais écoutez, on ne peut pas le faire aussi régulièrement que je le souhaite parce que c'est un lieu de travail également. En tout cas, à chaque fois qu'on ouvre le bâtiment, le public vient et ce sont des ambiances formidables parce que c'est aussi un tout autre rapport à la danse. Les spectateurs sont là, il y a un bar, ils discutent avec les danseurs. Après, il y a un climat de convivialité qu'on n'a pas toujours dans des grandes salles par rapport à la création.
Éric Vuant, le maître de ballet, est parti il y a quelques mois. Est-ce qu'il sera bientôt remplacé ?
Oui. Ben, écoutez, je crois que c'est très important qu'il y ait un maître de ballet. Il y a une jeune fille qui a travaillé chez Forsyth. Je crois que c'est, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup la technique. Je crois que c'est très, très important. Et donc, Forsyth, je connais bien parce que nous avons eu un projet européen avec Preljokage, Forsyth, Wayne McGregor, qui était une espèce d'alternative aux écoles de danse, qui était la création d'un jeune groupe européen d'une quarantaine d'élèves qui voyageait entre les différentes villes, Allemagne, Londres, Marseille et Aix-en-Provence. D'ailleurs, nous avons engagé 6 danseurs de cette formation qui s'est terminée, hélas, l'année dernière.
Et donc, elle s'appellera comment, donc, cette nouvelle recrue, entre guillemets ?
Ah, ben, c'est une jeune Française qui a aussi une carrière très multiple, qui a travaillé, bon, qui a une formation classique, bien sûr, mais qui a travaillé aussi avec des compagnies contemporaines. Elle travaille pour le moment en Allemagne, à Darmstadt, mais elle va venir bientôt à Marseille.
Mais son nom ?
Sophie Faudeau.
Travailler en binôme donc avec un maître de ballet, vous qui êtes chorégraphe, est-ce que c'est facile ou est-ce que ça peut créer des tensions, des frictions ou est-ce que vous avez toujours le même point de vue ?
Non, pas toujours, mais vous savez, j'ai aussi des assistants et bon, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on fait un travail de création, forcément, il y a des discussions. Je crois que c'est très important aussi qu'on discute avec les danseurs, qu'ils ne soient pas, comme je le disais tout à l'heure, uniquement des interprètes, qu'il y ait un vrai travail en profondeur, qu'il y ait ce projet de corps, justement, qui nous tient tellement à cœur. Et donc, c'est à travers des discussions, un travail de recherche à long terme.
Lorsque vous auditionnez les danseurs, qu'est-ce que vous retenez en premier lieu ? Chez eux pour les sélectionner et les intégrer donc à votre troupe.
Écoutez, plusieurs choses. Bon, d'abord la technique, forcément, on a beaucoup parlé de technique, je crois que c'est important, c'est ballet national. Techniques diverses aussi, parce que d'abord un cours classique, puis un cours contemporain, puis des séances d'improvisation, par exemple. Et finalement, c'est la créativité aussi, l'intensité d'une personne qui se donne dans une improvisation à partir du moment où on a passé tous les tests de la technique, etc. Et que donc cette espèce d'équilibre entre la structure et l'inventivité personnelle qui est fondamentale, je crois, pour ce type de spectacle.
Pour parler de vos spectacles, abordons Métamorphose, hein, qui fut créé, je crois, en 2007.
Oui.
Comment pourriez-vous définir cette pièce que vous avez d'ailleurs imaginée avec le concours des frères Campana, hein, des célèbres designers brésiliens ?
Oui, bah écoutez, c'est un spectacle qui est en fait par Dovid, bien sûr, mais pour parler du monde d'aujourd'hui, bien sûr, parce que je crois que ce qui est important, c'est toujours parler du statut du corps. Et je crois que la danse est un art merveilleux aussi pour parler du monde d'aujourd'hui, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est notre corps qui est mis en question. Il se fait de plus en plus remplacer par des techniques, par des programmes, par la technologie. On voit bien toutes les recherches en génétique, en biotechnologie. Il y a une espèce de rêve de remodelage du corps aujourd'hui. On le voit aussi dans la publicité, hein. Le corps veut toujours, on nous présente un corps artificiel dans les magazines, au cinéma. Et donc c'est intéressant d'analyser parce qu'en fait le corps est une chose très fragile, très sensuelle, qui est à l'opposé de la machine quelque part. Nous parlons depuis 10 minutes, nous avons vieilli depuis 10 minutes également. Donc, et je crois que cette fragilité-là est justement la beauté de l'être humain et c'est aussi ce message-là que la danse fait passer, c'est-à-dire une espèce de réappropriation du corps dans un monde qui devient de plus en plus artificiel.
Mais la pièce fait quand même appel à des matériaux de récupération.
Bien entendu.
Il y a le velcro qui habille, je crois, les danseurs. Il y a un plastique aussi.
Le recyclage, on le trouve chez Ovid. Il parle de la contiguïté de tous les éléments de la nature, le minéral, le végétal, l'humain. Les choses se transforment continuellement chez Ovid. Et c'est en ce sens que c'est un auteur qui est très contemporain aussi, quelque part. Effectivement, aujourd'hui, on parle, c'est une obsession de recyclage. On sait que les ressources de la planète deviennent de plus en plus rares. Et donc, j'ai choisi ces designers qui sont les frères Campana, que je connaissais depuis 20 ans, parce qu'ils convenaient parfaitement à cet univers de recyclage de chez Ovid. Ils travaillent avec des matériaux pauvres, et ils créent des univers, des éléments baroques. Alors, ils ont créé des costumes avec des tuyaux d'arrosage, 50 sortes de tuyaux différents. Pas uniquement les costumes, il y a des espèces de grands écrans qui pourraient évoquer les planètes dans un spectacle de la Renaissance, par exemple, et qui bougent, qui disparaissent en coulisses, qui apparaissent, mais qui sont aussi des accessoires qui interpellent les danseurs. Donc, c'est à la fois un univers baroque et pauvre, ce qui est extrêmement intéressant.
Et la musique ?
Alors, des musiques diverses, comme toujours, parce que ce sont des spectacles qui aiment faire voyager dans différentes époques, qui évoquent l'époque baroque, des époque futuriste, et donc il y a effectivement la musique de Corelli, mais aussi la musique électronique, jouée live par deux musiciens, et on a l'impression effectivement qu'il y a tout un orchestre, parce qu'il y a un piano et un violoniste. mais via des truchements électroniques. Ils évoquent des univers extrêmement opposés, donc des voyages dans des espaces et dans des époques différentes.
Travailler souvent avec des plasticiens, des architectes, des designers, comme on le disait, et c'est encore le cas dans la prochaine création, La vérité, 25 images par seconde. Que cherchez-vous et que trouvez-vous dans ce mélange des genres ?
Écoutez, bon, d'abord, je crois que je ne suis pas le seul à faire ça. Je crois que c'est un peu un rêve du XXe siècle, des artistes de plus en plus, comme c'était au début du XXe siècle d'ailleurs. Il y a eu ce rêve des ballets russes, des ballets suédois, du Bauhaus. Bon, à chaque époque, il y a des artistes qui essayent de dépasser le cadre étroit de leur discipline. Bon, c'est mon cas, certainement. Je crois qu'on vit aussi une époque de mutation incroyable. Alors, on peut aussi se poser la question du spectacle vivant aujourd'hui. Que va-t-il devenir dans une société livrée à la révolution médiatique ? Donc ça, ce sont des obsessions que j'ai continuellement dans mon travail. Et donc, si je travaille avec des architectes et d'autres disciplines, c'est à la fois pour sortir du cadre, comme je le vous disais, du cadre étroit de notre discipline, mais pour interroger l'espace aussi, l'espace dans lequel nous vivons, interroger le corps urbain et en fait expanser l'espace, sortir de cet espace de la perspective qu'est le théâtre à l'italienne, auquel nous sommes toujours habitués et dans lequel les spectacles ont toujours lieu pour la plupart. Donc cette espèce de dialogue forcément avec l'architecture, mais pas uniquement avec l'architecture comme décor bien sûr, mais des architectes, des plasticiens avec lesquels nous discutons de concepts bien sûr. Et on revient toujours au corps, au statut du corps bien entendu.
Et c'est comme ça que naissent
vos spectacles dans la discussion de concepts, par exemple avec le dernier spectacle, c'est un des plus grands architectes plasticiens, lui aussi, on ne sait pas s'il est architecte ou plasticien, d'ailleurs, peu importe, c'est un artiste du 21e siècle important, qui est Ai Weiwei, qui est chinois, qui a à l'origine été connu dans le monde entier parce qu'il a fait le dessin du nid d'oiseaux des Jeux
de Pékin.
Mais en fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus provocant, qui est dans toutes les galeries d'art les plus contemporaines du monde, qui a la Documenta à Kassel, qui a la Biennale de Venise, où je l'ai découvert d'ailleurs. Et j'avais un projet pertinent qui était une adaptation en spectacle du Baron Perché de Calvino. Alors le Baron Perché, c'est, bon, je résume très vite, c'est un jeune homme qui se dispute avec sa famille, il monte dans les arbres et puis il décide de ne plus jamais descendre. Mais bien sûr, c'est la fable et pas l'intrigue qui nous a intrigués ici, c'est-à-dire c'est ce point de vue, comment appréhender la réalité différemment et avec différents points de vue. Et ça, je crois que c'est une obsession de la sensibilité contemporaine aujourd'hui. Nous sommes sur Internet, nous sommes en communication avec le monde entier, nous souhaitons avoir les avatars, nous souhaitons avoir vivre différentes identités et surtout avoir différents points de vue. C'est ça que symbolisait le Baron Perché pour moi. Et donc j'en ai parlé avec Ai Weiwei, c'est un artiste conceptuel, provocant, radical lui aussi. Et après de moult discussions, il nous a proposé une espèce de forêt abstraite faite d'échelles en aluminium, uniquement des échelles. Bon, ce qui a fait grincer les dents de quelques puristes de la danse, bien sûr, mais ça, j'ai l'habitude. Mais en même temps, le résultat est une espèce de chorégraphie qui se mêle aussi à une chorégraphie spatiale de cette structure, qui est une espèce de piranèse géant qui bouge dans l'espace en même temps que les danseurs. Et les danseurs cherchent un espace humain dans cet espace qui est une sorte de piranèse géant, mais aussi un château merveilleux quelque part. Ils cherchent l'espace de la vie qui en même temps peut-être fait en sorte que l'homme est toujours plus fort que l'espace qu'il habite. Thank you.
peut expliquer que les chorégraphes belges aient autant d'audace?
Mais écoutez, la Belgique est un petit pays, d'abord, qui n'a pas une tradition très... Bon, c'est un pays assez récent, pas une tradition forte comme l'Italie, la France, l'Allemagne. Bruxelles est un carrefour de plusieurs cultures, la culture française, la culture allemande, on l'oublie, et la culture néerlandaise. En plus, Bruxelles est très proche de Londres, de Paris, d'Amsterdam. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, les week-ends, c'était pas à Bruxelles, c'était une fois à Amsterdam, une fois à Paris, une fois à Londres, une fois à Cologne. Donc, l'intérêt vers d'autres, c'est une espèce de laboratoire européen. Et je crois que ça a été une très, très grande richesse pour moi d'être en contact avec différentes cultures et de faire des choix artistiques assez radicaux dans ces différentes cultures, ce qui m'intéressait, et en même temps dans la tradition, dans la mémoire, hein, comme je le dis, je crois être moderne aujourd'hui, c'est se situer à ce point exact de tension entre la mémoire et l'innovation.
Et pour la vérité, quelle musique avez-vous choisi?
Mais là aussi, j'ai travaillé avec des musiciens avec lesquels je travaille depuis longtemps.
Un mélange, des
musiques baroques, vous voyez. Bon, c'était comment arriver justement, et ça a été le grand défi de ce spectacle, parce que ces échelles, bon, on sait, les échelles en aluminium, c'est assez rébarbatif, évidemment. Mais il y a des moments, par exemple, on a l'impression d'être... en pleine Renaissance, avec une fille qui traverse la scène avec une robe d'échelle sur une musique baroque, tandis que dans le restant de la structure, un danseur s'envole presque dans l'espace. Vous voyez, c'est créer, à partir d'éléments pauvres comme ça, des voyages imaginaires les plus fous à certains
moments.
C'est
récurrent chez vous, ce désir de travailler à partir d'éléments de décor tout simples, hein.
Oui, mais qui donnent l'impression d'une grande technologie de l'image, et en réalité, c'est toujours très simple et très artisanal. Et dans ce cas-ci, ce qui m'a beaucoup plu...
Trompe-l'œil.
Voilà, exactement. D'ailleurs, on aurait pu appeler le spectacle Trompe-l'œil, ou le vertige de l'œil, en tout cas. Et oui, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est ce côté artisanat. Et j'ai beaucoup aimé le travail avec Ai Weiwei, parce que c'est aussi un travail sur les modules, ce qui est très chinois, d'ailleurs.
Le plasticien chinois. Qui vous a accompagné dans cette aventure.
Voilà.
Alors, j'aimerais aussi que l'on parle du programme Flux de Marseille, qui a débuté et qui se déroule pendant 2 mois, je crois. Comment est née cette idée collective?
Elle est née de collaborations, parce que j'avais un peu l'impression, quand je suis arrivé à Marseille, que les gens travaillaient très fort dans leur coin. Chacun... Alors nous avons eu les premiers contacts...
C'est vous qui êtes à l'origine de la réunion?
Non, c'est plusieurs personnes, c'est Marseille Objectif Danse, c'est dans l'air du temps, c'est le Festival de Marseille, c'est Apolline Quintran. Et je crois que 2013 a été un peu le déclencheur aussi. À partir du moment où on a su que Marseille allait être capitale culturelle de l'Europe, je crois que les gens se sont dit, bon, ben, on ne peut plus rester à travailler seul. Moi, c'était ma politique depuis le début, cette notion d'ouverture. Et en même temps, Marseille est une ville métissée. Appelle cette ouverture. C'est un port qui est déjà une ouverture sur la mer.
Et tout le monde a bien adhéré.
Tout le monde a adhéré.
Ça a été très volontaire.
Oui, très bien, avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'envie. Et je crois que ce qui est très bien aussi, c'est que ça permet aussi au public, il ne faut pas l'oublier, d'aborder des spectacles très différents, que ce soit le Festival Mimi, que ce soit nous, d'autres, de voir à moindre prix plusieurs spectacles.
La danse, je le disais en début d'émission, reste quand même, surtout la danse contemporaine, assez élitiste.
Je ne crois pas. Je crois que c'est un...
Quand même.
Écoutez, je ne crois pas parce que, regardez, par exemple, on vient donner des spectacles à l'opéra. Bon, il y a quand même eu 4000 personnes en 2 jours. Et dans ces 4000 personnes, il y a eu 2 fois 400 jeunes avec lesquels nous travaillons, les danseurs travaillent dans les écoles des quartiers nord. Et donc, on amène là tout un autre public, des gens qui sont nés avec leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, et qui jamais, bien entendu, n'avaient mis les pieds à l'opéra, et qui, bien entendu, n'avaient jamais vu un spectacle de danse. Et donc là, je crois que c'est très très important.
Oui, mais ce sont quand même des danseurs de chez vous qui sont allés les chercher.
Bien sûr, mais on crée un public aussi, on crée une envie. Et qu'à partir du moment où ils font des stages et on leur donne des thématiques, moi et mon image, image, ils savent ce que c'est l'image, ils sont avec leur vidéo, avec la télévision tous les jours, c'est ça aussi la jeunesse aujourd'hui. Je crois qu'un ballet comme le nôtre ne peut pas faire l'économie d'une écoute sur la société contemporaine. Et de ce que cette mutation, nous vivons une véritable mutation des plaisirs et des perceptions aujourd'hui, il faut le savoir. Donc je crois que la danse ne peut plus ronronner comme elle l'a pu le faire dans le passé. Je dis toujours, le ballet de Marcel est descendu de son piédestal pour s'articuler sur le monde contemporain.
Donc l'objectif de flux, au-delà de tous les amateurs, qui vont pouvoir évidemment, grâce à ce fameux pass, assister à plusieurs spectacles, a pour objet de s'ouvrir à
d'autres
à un public plus large.
Voilà, non seulement plus large, mais aussi des croisements de publics. Et ça, j'y crois très fort. J'y crois très fort dans mes spectacles, parce qu'à partir du moment où je travaille avec des artistes vidéo et avec des plasticiens ou des architectes, il y a évidemment un autre public qui vient voir des spectacles de danse, qu'il n'irait peut-être pas voir normalement. Donc ça, je crois que c'est déjà une chose très importante. Avec un phénomène comme flux, ce qui est d'autant plus important, c'est peut-être le public de la musique, du festival de musique, qui va venir voir la danse. On se dit, tiens, la danse, c'est peut-être pas le cliché de la danse qu'on a, c'est peut-être autre chose, la danse aussi, aujourd'hui. Et donc, ça me semble très, très important de créer de nouveaux mouvements et de créer de nouveaux publics. Alors, si on parle d'élitisme, mais oui, mais alors un élitisme pour tout le monde, c'est la vieille expression, et c'est ça qui est bien aussi. Finalement,
c'est-à-dire qu'on peut imaginer que le public de flux, enfin une partie du public, ce seront des amateurs de danse contemporaine qui vont circuler de spectacle en spectacle.
Et que les publics.
Et ça restera toujours le même public.
Non, mais que le public de la musique viendra voir la danse, aussi, et vice-versa d'ailleurs,
espérer,
et vice-versa.
Ouais. Pour terminer, j'aurais aimé profiter des liens quand même particuliers que vous entretenez avec les architectes, les urbanistes, puisque vous travaillez régulièrement avec eux, pour vous demander quelle est votre vision personnelle du paysage urbain.
Écoutez, c'est une question qui revient continuellement dans les spectacles. Bon, j'ai fait un spectacle à partir de Calvino sur les villes invisibles. Marseille, pour moi, est une des villes de Calvino, des villes d'échange, justement. Quand je dis échange, ce n'est pas uniquement échange de marchandises, mais échange de mémoire, échange de désir, échange de mots. Et ça, je crois, c'est chercher de nouvelles formes de convivialité. Bien sûr, les villes se transforment, heureusement. On voit la mutation de Marseille, par exemple. Mais en même temps, il y a toute cette vie de village à Marseille qui est tout à fait extraordinaire. Alors je crois, Marseille pour moi m'intéresse très très fort comme une espèce de laboratoire mondial à ce niveau-là, parce que c'est le grand défi de Marseille, c'est comment avoir cette espèce d'équilibre entre une ville qui se modernise, qui devient à la Joliette une espèce de Toronto incroyable avec les bâtiments de Zaha Hadid et tous les buildings qu'on va voir. Quel type de vie va-t-il y avoir? Et comment va-t-on préserver en même temps cette mémoire des villages qui est tout à fait extraordinaire dans une ville comme Marseille? Et donc je crois que c'est ça le grand défi, c'est de retrouver l'équilibre entre cette convivialité et cette vision future de la ville.
Vous aimez la ville?
En général, vous voulez dire?
Oui, en général.
Oui, je crois que la ville, c'est la densité, parce que ça permet la rencontre, la densité permet la rencontre. C'est l'isolement qui n'est pas la rencontre. Donc la ville, je crois, d'ailleurs tout le monde, regardez, les deux tiers de la population mondiale, si pas plus aujourd'hui, vivent dans les villes. Donc c'est la grande question, la ville, aujourd'hui.
Et quel est le paysage qui vous a le plus ému?
Mais écoutez, ça dépend dans quel sens, parce qu'il y a différents types d'émotions. Il y a des émotions positives, il y a des émotions qui vous glacent aussi. Quand j'ai vu Venise m'émeut très fort parce que, bon, hein, mais en même temps, c'est la mémoire, mais en même temps, ça m'émeut très fort parce qu'il y a aussi la Biennale de Venise où je vais chaque année et qui est la rencontre de tout ce qu'il y a de plus contemporain qui se fait au monde. Mais il y a aussi des choses qui vous glacent dans le paysage. Je ne sais pas, le musée juif à Berlin, de Libeskind, par exemple, hein, qui est une émotion très, très forte sur le malheur humain, par exemple. Ça, c'est aussi des émotions très fortes. Mais il y a des émotions paisibles, le désert. Vous savez, il y a 100 000 émotions. Hein. Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui crée tout le temps. Hein. Vous pouvez être ému au milieu de New York, dans une foule de 3 000 personnes, à Times Square également. Donc un artiste, je crois que c'est quelqu'un qui capte toutes les énergies continuellement autour de lui et qui les transforme en création artistique.
Eh bien, merci Frédéric Flamand pour ce bon moment passé en votre compagnie et une bonne continuation pour ce printemps qui s'annonce quand même très chargé.
Oui, merci à vous.
À très bientôt.
À bientôt.
Métamorphose est proposée le 18 mai au Théâtre des Salins à Martigues. Réservation au 04 42 49 02 00 et sur le site internet www.théâtre-des-salins.fr. Quant à La Vérité, 25 images par seconde, ce ballet sera dansé pour la première fois dans la région à la salle Valier à Marseille du 8 au 12 juin. Prenez date et réservez au 04 91 327 327 ou sur le site www.ballet-2-marseille.com. Notez également que le Ballet National présentera Superman Project, film, chorégraphie et installation au Musée d'art contemporain de Marseille dans le cadre de la Nuit des musées le 15 mai. Enfin, vous obtiendrez toutes les infos, le programme et les lieux d'accueil de flux sur le site internet www.fluxdemarseille.com. Cela fait effectivement beaucoup d'infos, mais vous pouvez naturellement réécouter cette émission en podcast sur le site www.grenouille888.org, sur la page « Éteignez vos portables ». Et toujours sur cette même page, la sélection mensuelle des meilleurs spectacles à Marseille, dans la région, mais aussi quelques incontournables présentés ce mois-ci à Paris. Vous y trouverez enfin les dates des présentations publiques de la saison 2010-2011 des principaux théâtres de la région. Bon spectacle et belle découverte!
I'm also gonna move on, get the program swinging.